se reconnaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France.
CO2.
Qui protestent contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer et de penser en rond, en tout cas qui essaie, CO2 mon amour, avec Renan Mahé et Anne-Laure Cochet à la technique aujourd'hui, et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Que diriez-vous d'une dernière petite humeur ? Mais oui, c'est la dernière émission de la saison, on ne vous l'avait pas dit. Mais si, c'est la grille d'été qui arrive sur France Inter et la vie, c'est le changement. Chérie, as-tu bien pensé à fermer le gaz ? Ah bah le gaz de schiste, bien sûr. Tu demandes aux gardiens de surveiller nos pieds de maïs et les plantes OGM ? Ah, dis, je me suis débarrassé des tortues des gosses dans l'étang d'à côté. On va pas s'embêter avec ça. De toute façon, ils ne s'amusent plus avec. Et puis, on aura assez à faire avec les trois chiens. Hein ? Ah, dis, au fait, t'es sûr qu'ils les acceptent dans la location, les les bars ? Ah ben non, sinon on s'arrête sur une aire d'autoroute et on fait comme l'an passé avec mamie. Oui. Et l'alarme ? T'as branché l'alarme ? Parce que l'an passé, ces cons m'ont piqué ma collection d'Automoto Tuning Magazine et mes chasseurs français collector. Ah là là ! Allez, au revoir, petite maison, sois bien sage. On va frimer en Hummer à la bonne heure. Moi non, c'était pour rire, ça n'existe pas, des gens comme ça, pas du tout. Allez, une petite dernière, CO2 mon amour, CO2 my love, clap de fin. On ferme notre petite boutique, laquelle d'ailleurs n'a rien à vous vendre, juste à vous prendre par la main pour aller ensemble vers un monde nouveau, vers un truc dont il ne faut pas avoir peur et qui s'appelle demain. En prenant le temps de gambader, de ne pas aller trop vite, de se frayer un chemin entre les mauvaises, les bonnes idées estampillées écologiques, avancer entre les agences de notation qui échappent à toute notation et qui décident de la même façon du sort des entreprises, des hedge funds, des états, des nations, du vivant, de l'environnement, de l'humain, on l'a voulu, et oui, tout est marchand. Mais ne vous en faites pas, ce sera dur, mais il y aura encore de la place sur les ailes d'un avion solaire, d'un pigeon voyageur autour de notre jolie terre. Et on va toujours lutter pour faire refleurir du vivant, de la diversité humaine, des jardins de pensées nouvelles, pour arroser les petites pousses, vous savez, celles qu'on ne voit pas encore dans le paysage couturé de plaies humaines. Mais un jour, dans une génération, de gré ou de force, elles feront sens. Elles diront une autre vie. Elles diront « c'est le moment ». Alors on va oser, on va risquer, on ne va pas se replier, mais avancer et enjamber dans la folie d'été le plus beau des feux de la Saint-Jean. Et au menu de cette dernière édition de la saison, ça va être très très naturaliste. Nous allons nous retrouver dans un jardin d'Isère, ce sera la nuit. On va s'intéresser aux animaux et puis je vais vous emmener dans un bois extraordinaire.
La forêt est très ouverte ici, elle est à versant raide. Alors ce qui est bien finalement dans cette forêt, c'est qu'elle est assez éloignée de Briançon. Donc c'est quand même pas mal qu'il y ait des zones. Pas vraiment des jungles, mais qui soient vraiment réservées aux animaux. Et ici, l'hiver, on va y rencontrer du chevreuil, quelques frênes, et le loup aussi, qui vit sa petite vie en passant l'école et en se faisant tout petit.
Et le bois en question, il s'appelle le bois des ailes. Il se trouve dans le Briançonnais, donc pas loin de Briançon. On voit la découverte du pin sombreau en compagnie de Jean-Luc Charton. Et une émission de CO2 mon amour, ça commence toujours ainsi. Eh bien c'est à nous, bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Comme été, quels sont les mécanismes de l'été Jean-Marie ?
Vous avez remarqué probablement que l'été suit le printemps.
Oui.
Voilà.
Merci Jean-Marie.
Bien. Alors, l'été commence au solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin, jour de la fête de la musique, que la France a offert au monde entier.
Oui.
Merci Jacques Lang.
Tout à fait.
Très bien. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'avant, c'était le 24 juin, pour la Saint-Jean, qui était la grande fête de l'été. Mais voilà, la Saint-Jean, ça tombait un peu après le solstice. Pourquoi ça tombait après le solstice ? Pourquoi ça tombait quand les jours commençaient lentement à diminuer ? Parce qu'il y a dans l'Évangile une phrase qui dit, à propos de Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour que lui grandisse. Lui, c'est le Seigneur. Oui. Alors, on a fixé Noël un peu après le solstice d'hiver, quand les jours grandissent, et on a fixé l'été un peu après le solstice d'été, quand les jours diminuent. C'est comme ça que ça a été décidé à l'époque. Mais du point de vue astronomique, c'est le 21 juin. Alors, il s'est produit pendant tout le printemps que la nature s'est réveillée et qu'on est entré dans une phase d'intense production. Production de matière végétale. En gros, on estime que pendant les deux mois d'avril et mai, et un peu juin encore, la nature a produit 150 milliards de tonnes de matière vivante séchée. C'est beaucoup, hein. Alors, sur un hectare d'une forêt française à feuilles caduques, c'est en gros 13 tonnes. Sur une forêt de sapins, de conifères, c'est un peu plus, c'est 16 tonnes.
Mais en forêt tropicale,
22 tonnes. Ouais. Et un marécage, c'est 40 tonnes, parce que ce sont les zones les plus productives. Les marais du Mont-Saint-Michel, par exemple, où les aubiones sont très serrées, très denses, on atteint pratiquement 40 tonnes, c'est énorme. Mmh. Donc une productivité tout à fait considérable. Et puis alors, à la fin du printemps, on est passé en même temps à la reproduction, c'est-à-dire à la fabrication des fleurs. Donc il y a la production et il y a la reproduction. Et en été, c'est la reproduction qui va prendre le dessus, parce que la production, c'est fini. Oui. On ne fabrique plus de matière vivante pendant l'été. Et la matière vivante, les feuilles en l'occurrence, ont tendance à s'assombrir à la fin de l'été. Pourquoi ? Elles sont très vert tendres au printemps. Pourquoi ce n'est pas vert tendre à la fin de l'été ? Parce que les feuilles attrapent l'artériosclérose. Parce que des substances nocives se déposent dans leurs vaisseaux. Mmh. Et qu'elles seraient condamnées à mort si leur vocation n'était pas de tomber en automne.
Elles auraient besoin d'antioxydants.
Oui, elles auraient besoin d'antioxydants, absolument. Mais ça n'a aucune importance puisqu'elles ne durent qu'à l'automne. Bah oui. Donc voilà, elles s'en vont, puis c'est fait. Alors, il y a aussi, en été, quelque chose qui se produit et qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas, c'est la production des bourgeons, qui se fait entièrement pendant l'été. Et ces bourgeons vont rester fermés, petits, enrobés dans des écailles pendant tout l'été et pendant tout l'automne et pendant tout l'hiver. Et ils vont se réveiller quand ils auront eu une certaine dose de froid, ce qu'on appelle la vernalisation. Et ils se réveilleront par conséquent au printemps. Donc, l'été, c'est la période où la reproduction, la continuité de la vie est au cœur de l'affaire. C'est aussi la période où les fruits vont apparaître à la fin de l'été, au début de l'automne. Alors, tout ceci est extrêmement différent selon les espèces. Il y a des espèces qui sont très tardives, d'autres qui partent très tôt. En fonction des données météorologiques et climatologiques, la vigne, par exemple, cette année va probablement être vendangé nettement plus tôt que les années moyennes.
Ou déjà, c'était trois semaines en avance.
Et voilà, et c'est encore plus en avance maintenant.
Vendangeant en hiver. Quoi.
Alors, il y a des plantes qui arrivent à faire leur cycle complet en des temps très, très courts. La rose de Jéricho, c'est une plante qui pousse dans les déserts. Entre le moment où, après une pluie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie, la graine commence à germer, et le moment où les fruits tombent par terre, tout le cycle dure 8 jours. Ce qu'on appelle les éphémères. Quand on parle des éphémères, on pense aux insectes qui ont des vies très, très courtes. Il y a des insectes qui vivent pendant 24 heures.
Ils patinent sur l'eau.
Oui, c'est ça. Alors, chez les plantes à cycle très court, ce sont effectivement les éphémères. Alors, il y a aussi les annuelles. Les annuelles, elles font tout leur cycle pendant la période d'été. Elles germent au printemps. Elles font leurs tiges feuillées et leurs fleurs au début d'été ou à la fin du printemps. Elles forment leurs fruits en automne, et elles meurent. Donc, elles ont un cycle qui n'est pas gêné par l'hiver. C'est une des astuces inventées par les plantes pour vivre dans des régions où les hivers sont froids. Et non seulement elles ont réussi à s'adapter ainsi, mais mieux encore, c'est qu'elles ont besoin de froid. Oui. Elles se sont tellement bien adaptées que si elles n'ont pas de froid, elles sont malheureuses. Donc, les graines vont être vernalisées par l'hiver pour qu'au printemps suivant, elles regerment de nouveau. Donc, dans nos régions tempérées où il y a de forts hivers, les annuelles sont extrêmement favorisées et font tout leur cycle en été. Alors, il n'y a pas d'été Dans les forêts tropicales, il n'y a pas de printemps, il n'y a pas d'automne, il n'y a pas d'hiver. C'est pareil toute l'année. Les arbres font leur cycle individuellement. Les uns perdent leurs feuilles au mois de février, les autres perdent leurs feuilles au mois de mars, les autres perdent leurs feuilles au mois de décembre. Certains ne perdent pas leurs feuilles tous les ans, mais tous les 3-4 ans. Chaque arbre a son cycle propre parce qu'il n'y a pas la marche des saisons. La marche des saisons, c'est ce qui entraîne la végétation dans nos pays tempérés, avec une sorte de marée montante pendant tout le printemps, avec le côté un peu étal pendant l'été et avec le déclin pendant l'automne.
Jean-Marie, c'est aussi une période où on fait les foins pendant l'été.
Oui, on fait les foins. Et là, il ne faut pas les faire trop tard. Il ne faut pas laisser l'herbe trop longtemps parce que elle attrape aussi l'artériosclérose dont on parlait il y a un instant et elle durcit. Et le bétail n'aime pas trop quand l'herbe est trop dure. Le bétail, il est comme nous, il aime l'herbe douce. Nous aimons la salade parce qu'elle est douce. Nous ne pourrions pas croquer les feuilles de n'importe quel arbre parce que c'est raide. Eh bien, c'est pareil. Par contre, alors, la paille, là, effectivement, quand on coupe les graminées, les céréales, la paille, elle est mûre. Mais la paille n'est pas consommée par le bétail comme est consommé, évidemment, le foin. Le foin, donc, c'est une production de début d'été.
Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cet été, lorsque vous êtes en Lorraine, par exemple ?
Ah, c'est que je peux travailler dehors, c'est que je suis dans mon jardin, c'est que je regarde les roses, parce que je suis complètement entiché des roses, et que j'écoute le silence. Et alors, je me trouve mieux qu'en ville, où on fait beaucoup de travaux en ce moment, à Metz, parce qu'on est en train de développer les transports en commun. Alors, il y a des trous partout. La ville est très belle. Maintenant, il y a Pompidou, en plus, le musée. Alors, il y a des processions qui ne vont plus à la cathédrale, mais qui vont au musée maintenant. C'est un moment de fou. Dans mon jardin, c'est paisible, c'est doux, c'est calme. Et j'écris des livres.
Et vous regardez les mirabelles pousser, mais il faudra les attendre un petit peu. Quand... Ah, non, à la fin de l'été, en fait. On y a...
Ah, les mirabelles, c'est le mois d'août. C'est un fruit de l'été, en effet. Oui, parce que l'automne commence le 21 septembre. Et en automne, il y a encore les pommes et les noix, et puis les nèfles aussi. Les nèfles, c'est très long, c'est presque en hiver qu'elles sont mûres. Elles ont besoin d'avoir froid pour être bonnes.
Bon, je vous retrouverai dans votre jardin pour enregistrer une série d'émissions donc, au cours de cette fin d'été. Merci Jean-Marie, bel été, et puis à très vite. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Gonna use it. Intention. I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion. Restrained emotion. I've been diving. Detour leaning. No visa. Just seems so pleasing.
Make it see.
Eh ben quoi, ça a 32 ans, 1979, c'était les Pretenders, Brass in Pocket. On n'a pas vieilli nous non plus, hein. Figurez-vous qu'à l'époque, quoi, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'euro, il n'y avait pas de portable. Mais, il y avait des jardins. Et nous allons rentrer dans un très beau jardin, non pas d'hiver, mais un jardin d'hiver, celui de Jean-François Noblet. Alors, nous sommes dans le Dauphiné, nous sommes sur les contreforts du parc national régional de la Chartreuse, nous sommes par une très jolie nuit, il n'y a pas longtemps, hein, avec les étoiles pour compagne. Jean-François Noblet a été pendant longtemps directeur de la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, qui fête ses 40 ans cette année. On lui souhaite un bon anniversaire. Aujourd'hui, l'homme est conseiller technique environnement au Conseil Général de l'Isère. Et je vous offre une super production en quelques minutes. Vous allez voir apparaître sur votre écran des chauves-souris, des tritons, des blaireaux, des mésanges, des chouettulottes, une pincée de papillons, de grillons. Allez, c'est parti. Je ne vais pas vous dire bonjour, mais plutôt bonsoir.
Bonsoir Denis. Alors, on est parti pour une petite balade nocturne. Moi, j'aime bien ça. À la bibaude, comme on dit. Alors là, peut-être, on jette un coup d'œil au nichoir à chauves-souris.
Il y a du monde encore.
Ah, il y en a encore une.
Encore une, voilà.
C'est un nichoir, c'est une espèce de brique que j'ai posée sur le rebord de ma fenêtre et les chauves-souris viennent se mettre dedans. Donc c'est des pipistrelles communes, mais je pense qu'on peut essayer de les voir sur la mare.
On va rappeler aussi leur rôle. Elles avalent beaucoup d'insectes hein, quand même.
Ah oui, un murin de Benton, c'est 60 000 moustiques en une saison.
Murin d'Aubenton. Hein.
Murin de Daubenton. C'est une chauve-souris qui vit au-dessus des mares, des rivières et qui niche sous les ponts souvent.
Et en hommage à Daubenton ou...
Oui, ah, ouais, le scientifique de Benton. Alors voilà, ça c'est la mare.
Faites gaffe, Denis, à pas marcher dans l'eau.
Ah voilà un triton.
Ah oui, bien vu.
Alors ça c'est un triton palmé. Et le gros triton, c'est un triton crété, ça.
Deux.
Oh, génial.
Il nous manque celui local.
Alors, l'alpestre.
L'alpestre.
Ah, regardez. Alors, ça, c'est la paranuptiale. C'est le mâle poursuit la femelle de triton palmé.
Jusque-là, tout va bien.
Et puis, il la dépasse. Là, il se retourne.
Oui, ce que j'allais dire, il fait plus que la dépasse.
Et sa queue se met le long de son corps. Oui. Et il fait bouger sa queue devant le museau de la femelle pour la séduire. Et comme il a un tout petit filament au bout de la queue, la femelle est complètement ébahie, hypnotisée par ce petit morceau de queue qui dépasse.
Là, on précise bien que c'est un cours de sciences nat, que ce n'est pas pour faire monter l'audience qu'on raconte ça.
Voilà. Et voilà, ensuite, le mâle va émettre son spermatophore et la femelle va se coller dessus.
On va peut-être le laisser parce que là on est un peu voyeur quand même, je trouve.
On va poursuivre. En tout cas, les mares, c'est toujours un bon truc. En fait.
Alors, attendez, allez pas trop vite parce que vous connaissez vos lieux par cœur, mais pas moi.
On descend un petit talus, hop là.
Quand on a la chance d'avoir des prairies, il faut toujours donner un coup de lampe. Vous voyez, j'ai une grosse lampe projecteur. Ouais. On longe les lisières, on fait comme les prédateurs. Parce qu'en termes d'écologie, il y a un théorème qui s'appelle l'effet de lisière. C'est-à-dire que c'est une théorie qui est tout à fait sérieuse. C'est que quand on a la limite entre deux milieux naturels très différents, à la limite de ces deux milieux, c'est là où on a la plus grande biodiversité. Alors par exemple, sur une berge de plan d'eau entre un milieu aquatique et un milieu terrestre, et ici, entre des grandes herbes et l'herbe coupée, on a encore une lisière. Donc on favorise les lisières et comme ça, quand on est au bord d'une haie, par exemple, on est à la limite entre un espace boisé et un espace ouvert, eh bien, les prédateurs, ils ont compris ça. Et donc, les renards, les blaireaux qu'on peut voir dans ce secteur, ils sont toujours dans ces endroits-là.
Donc, on a intérêt à ouvrir quand même ce milieu-là.
Regardez. Ça, c'est le blaireau.
Ça y est.
Alors, lui, il a son sentier qui descend là. Et on a de la chance et il va traverser la route. Toujours au même endroit.
Alors racontez-nous, parce que quand même, il y a non pas un délit de sale gueule, mais je veux dire que le blaireau a fait partie des nuisibles, ça revient.
Alors le blaireau, d'abord, c'est un animal qui a un régime alimentaire tout à fait particulier. Il mange essentiellement des vers de terre.
Bon.
Et les scientifiques anglais qui travaillaient sur le régime alimentaire des blaireaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé les crottes de blaireaux.
Bien sûr, oui.
Qu'on trouve d'ailleurs dans des crottiers, je vais vous en montrer un.
Regardez,
ça c'est
pour les chouettes.
C'est un crottier de blaireau. Oui. Il fait un trou et il fait ses crottes dedans.
D'accord.
Et il marque son territoire comme ça. Alors ils ont analysé ça et ils trouvaient des poils. Mais ça ne ressemblait pas à des poils de mammifères, etc. Alors, ils ont mis un bout de temps puis ils se sont rendus compte qu'en fait c'était des poils de vers de terre. Les scientifiques anglais ont démontré comme ça que le blaireau mange une grande quantité de vers de terre. D'ailleurs, quand des gens ont une pelouse et qu'ils arrosent et que les vers de terre remontent, ils ont souvent le blaireau qui vient ramasser les vers de terre.
Donc, les vers de terre ont des poils.
Et en comptant les poils, ils arrivent à savoir le nombre de vers de terre et même à savoir déterminer les espèces de vers de terre rien qu'avec les poils. Ça, c'est les Anglais.
Ça. Ce que j'ai voulu dire, c'est
vraiment.
Anglais,
ça. Il faut vraiment être frappadingue pour faire ça. Mais c'est la réalité. Le blaireau est un animal qui. Alors, il est omnivore, hein, c'est-à-dire s'il trouve des champignons, il vient manger le raisin, il vient manger les fraises dans mon jardin. Mais, et alors, pendant l'automne, il vient sous mes noyers.
Oui.
Et alors, vous savez comment il fait pour casser les noix, pour manger les noix? Alors, mais il a une dentition assez solide de carnivore. Il prend la noix. Il essaie de la casser comme ça, et quand il n'y arrive pas, je l'ai vu faire parce que je me mets à l'affût juste là, il appuie sa tête contre le sol et il pousse avec tout son corps pour donner plus d'impulsion à la mâchoire. Et il arrive à casser les noix. Alors c'est un enchevêtrement là maintenant.
Oui, j'y arrive puisqu'il y a votre lumière.
Là, j'ai un bloc de sel là, pour les chevreuils. Et là, ce petit bois, là, il est juste au bord de la route, mais j'ai demandé à le mettre en réserve de chasse. Et alors, les chevreuils sont tranquilles, on voit leur couche.
Alors, réserve de chasse, ça veut dire?
C'est un endroit où on ne peut pas chasser. J'ai fait opposition.
Mais il faut le demander.
Il faut le demander.
Sinon, c'est par défaut.
C'est-à-dire qu'il faut aller voir en mairie la date de renouvellement de l'association communale de chasse agréée. C'est tous les 6 ans.
D'accord.
Et un an avant la date du renouvellement, il faut faire une demande écrite, accusé de réception, recommandée, etc., au préfet, au président de la CCA. D'accord. Ils ne peuvent pas vous refuser. Mais en échange, vous avez des obligations, c'est-à-dire vous ne pouvez pas chasser sur vos terrains, bien évidemment.
Alors, ça ne vous perturbe pas plus que ça, alors,
c'est clair. Non, non.
Il faut que je retrouve mon nichoir.
Donc nos chevreuils viennent s'alimenter en sel chez vous.
Voilà. Ça, c'est un petit nichoir. On va donner un petit coup dessus pour voir.
Regardez la tête qui sort là. C'est le muscardin, c'est une espèce protégée par la loi. Donc les milieux de reproduction des espèces de mammifères protégées sont protégés. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a un arbre avec un nid d'écureuil, normalement, on ne peut pas foutre en l'air l'arbre. Alors ça, c'est un bon conseil que je donne à tous les gens qui veulent sauver des arbres. C'est vrai, souvent, en ville en particulier... Dès qu'il y a un arbre qui fait un peu trop de feuilles, d'ombre, etc., ou qui fait des salissures sur les voitures, il faut le couper. Alors les gens qui ne sont pas d'accord, eh ben, ils peuvent essayer de trouver un nid d'écureuil dedans, quoi. Ça peut être un bon argument. C'est des nichoirs en ciment de bois, parce que les nichoirs en bois chez nous, ils sont trop fragiles.
Bonjour. Ah,
regardez la mésange bleue.
Ah bah oui.
Oh, avec ses petits.
Elle nous montre ses fesses. Là.
Oh, c'est génial.
Il y a du monde là.
Ah, les petites mésanges bleues, alors là, vraiment, c'est...
Et donc c'est elles qui, après, ont fait leur nid toutes seules, encore
ouais,
un
peu. Ouais,
elles font de la mousse, beaucoup.
Ouais. Quand le nichoir, disons, est soumis aux conditions météo défavorables, et ça arrive très souvent qu'il y ait de la pluie, du gel, etc., eh bien, ils se fendent. Il y a de la pluie qui passe à travers, des courants d'air. Et les nichés, on le sait, on a fait des comparaisons avec des nichoirs en ciment de bois, c'est-à-dire c'est de la sciure et du béton, et puis des nichoirs en bois. Les oiseaux, ils adorent les nichoirs en bois, il n'y a aucun problème. Mais par contre, le nombre de petits à l'envol et le poids des petits à l'envol est bien supérieur dans les nichoirs en ciment de bois. Pourquoi ? Parce que le confort thermique à l'intérieur est bien supérieur.
D'accord.
Et moi, je préfère, à la limite, poser des nichoirs en ciment de bois dont les systèmes d'accroche ne vont pas rouiller ou ne vont pas tomber. Parce que la plupart des nichoirs, et je vais vous en montrer, qu'on pose, tôt ou tard, le système d'accroche se fout en l'air. Donc, le nichoir tombe. Et si c'est pendant la nichée, vous avez vu les petites mésanges bleues, là, c'est magnifique. Hein, ça serait dommage.
Ciment de bois, voilà.
Voilà, oui. Ciment de bois, c'est l'assurance d'un bon système. On va essayer d'aller voir s'il n'y a pas un loir qui traîne, parce que j'ai un autre nichoir où, en général, les loirs viennent dans les nids, dans les nichoirs, juste après les mésanges.
D'accord.
Ils attendent que les mésanges amènent suffisamment de matériaux, de mousse, etc., de feuilles, et ensuite ils s'installent. Le loir, bah, c'est un écureuil, mais un peu plus gros que le muscardin.
Non, mais quand vous dites un petit écureuil, c'est la même famille ou bien c'est parce que ça ressemble?
Oui, c'est un rongeur.
Écoutez, mon gars.
Toc, toc, toc.
Occupé. Ça
voilà,
y est.
Voilà, il est dans les feuilles, là. Alors, il ne bouge pas.
Incroyable. Il y a une bonne petite bouille. Hein.
Oui, des grandes moustaches.
C'est le loir ou la fouine qui aime beaucoup les durites de certaines voitures?
Ah, ça, c'est la fouine.
C'est la fouine. Hein,
c'est la fouine qui se venge de toutes les fouines écrasées.
Oui, c'est peut-être pas du grillon.
Ah, non, c'est du grillon.
C'est grillon, c'est ça?
C'est le grillon champêtre. Alors, je vais vous faire une confidence. Moi, le chant du grillon, quand on a passé un long hiver comme cette année, là, et un jour, quand on rentre du boulot en ouvrant la fenêtre et qu'on passe sur un talus puis qu'on entend le chant du grillon...
La vie est belle, hein?
Ah, ça y est, l'été est revenu, le beau temps, la chaleur...
La fenêtre vers le soleil, là, ça y est.
Ah, mais moi, c'est ma Madeleine de Proust, hein? Les marguerites et les grillons dans mon jardin, c'est magnifique.
Bon, on va se souhaiter une bonne nuit. Hein.
Ça serait presque une nuit à bivouac.
Mais écoutez, vous allez le faire. Et puis, à demain matin.
Non, il y a un peu trop de rosée.
Alors, pour tout vous dire, on a évidemment tourné ce reportage donc la nuit, mais on n'avait pas prévu que c'était la sortie de la boîte de nuit qui était à 4-5 km, d'où toutes les voitures qui sont passées. Je ne sais pas si on danse sur Daphné, mais en tout cas, c'est notre prochain disque. Je ne sais toujours pas où elle va, mais en tout cas, elle y va certainement, donc Lila Jane, qui a pris donc le chemin d'abord d'un album France Inter, c'est une excellente idée pour elle, et après le département de l'Isère, je lui conseille d'aller, pourquoi pas, dans le Briançonnais. Superbe grimpée dans le mauve des épilobes. Si on regarde par terre, on a quelques baies tout à fait sympathiques à glaner. Et pour nous accompagner, Jean-Luc Charton. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Denis.
Alors on est ravis parce qu'on est avec vous dans ce département des Hautes-Alpes, dans un lieu, on va dire assez magique, qui s'appelle le Bois des Ailes.
Alors on se trouve ici dans cette cimbrée, hein. C'est une très belle forêt de pins cimbreaux et que les botaniques appellent un haut lieu de la botanique des Hautes-Alpes. Pourquoi ? Parce qu'on a ici des bois magnifiques, des pins cimbreaux qui peuvent avoir jusqu'à 600 ans d'âge, mélangés à des mélèzes. Et plus on va monter, et plus les mélèzes ont laissé la place aux pins cimbreaux et qui vont avoir des formes assez folles. On va les appeler les pins cimbreaux en candélabre.
Et là, c'est le dernier conquérant, on va dire, avant le monde minéral, c'est ça ? C'est le dernier envahisseur, en quelque sorte ?
Tout à fait, c'est celui qu'on va retrouver le plus haut, en altitude, buissonnant, rampant, sur la lande désertique de l'altitude.
Nous sommes dans le Briançonnais avec des glaciers en noir et blanc. Donc on est dans les Alpes du Sud. Vous imaginez des lieux fortifiés par Vauban, hein, qui ne manquent pas d'allure. Et avant tout, c'est un pays de beauté et de lumière avec un air qui est extrêmement sain. On a un autre parc naturel régional qui est celui du Queyra cette fois, qui est juste à côté de ce col emblématique que vous connaissez qui est l'Izoard. Il est là donc à une portée de vol de Rémy, je dirais, avec des habitants qui ont des plumes parce qu'on peut y voir l'aigle, la chouette, le tétralyre, le piquenois et le casse-noix moucheté, on va y revenir. Le paysage, lui, il a des fleurs, il a des aiguilles à sa boutonnière et on a besoin d'un guide et c'est le métier de Jean-Luc Charton pour découvrir ce coin qui arpente d'ailleurs aussi bien des chemins d'altitude forgés au fil de l'épée. C'est un homme qui est féru d'histoire, de géographie, qui est guide de trekking en Himalaya et chez lui, donc dans ce Briançonnais. Alors, on quitte la Durance à nos pieds, non loin de Briançon, on s'élève, on va passer Villars-Saint-Pancras, on grimpe vers le bois des Ailles, ça veut dire le bois des eaux, parce que cette eau, en fait, elle est présente partout. Vous avez un sol de houille, un sol qui est houillé, qui ne retient pas l'eau. Et ce reportage, il est dédié à un autre homme qui aimait aussi les eaux, que j'ai surnommé Jean de la Clarée, c'est Jean du Flot. Et on va donc se dépolluer les poumons à la radio. On peut le faire, si, dans ce Briançonnais. Avec Jean-Luc Charton.
Ici, si on a ces pins cimbreaux, c'est qu'on a le casse-noix moucheté.
Ah,
ce petit corvidé, brun, avec des petites plumes blanches, au bec très puissant.
En fait, l'arbre et l'oiseau sont un peu inféodés. C'est-à-dire que sans l'un, il n'y aurait pas l'autre. Comment ils fonctionnent ensemble ?
Ah ben voilà comment ça fonctionne. Ce petit oiseau va faire tomber les pignes de pin, ouais, du pin cimbreau.
Pour y se nourrir, hein, bien sûr.
Voilà. Alors il a ce qu'on appelle une enclume. Il les pose sur des troncs d'arbres coupés. Et puis il va décortiquer la pigne, prendre la graine et la déposer dans des trous qu'il mémorise parfaitement. Et l'hiver, il n'est pas rare de voir des trous dans la neige et des reliefs de repas sur le bord du trou de la neige.
Donc c'est son garde-manger. Hein.
Tout à fait. Alors, l'intérêt pour nous, c'est qu'il va perdre. Il mémorise beaucoup, les deux tiers de ses emplacements.
Mais son GPS n'est pas réglé à 100%, et tant mieux.
On ne sait pas du tout si son Alzheimer est galopant. Et en fait, il va en oublier, et ça va être l'occasion de voir pousser quelques petites plantes de cimbreau.
D'accord, et donc il pousse souvent en touffe grâce à cela, parce qu'il y a plusieurs graines qui ont été déposées,
ça.
Donc ça forme un bouquet après.
En effet. Et donc cette forêt est protégée, ce qui fait qu'on laisse de très vieux arbres,
ouais,
pour que d'autres animaux viennent nicher dans les trous des pics. Le pin cimbreau, on dit de lui qu'il pousserait à une hauteur d'1,30 m en 30 ans. Ouais. C'est-à-dire que ces petits arbres-là, ouais, ils sont bien dans leur couvert végétal.
Oui, bah celui-là, il a 30 ans déjà. Donc.
Si on se retourne un peu, on en voit un autre là-bas qui fait déjà 20 mètres. Ouais. On peut imaginer qu'à 20 mètres, il est peut-être une centaine d'années. Ouais. Tout à fait en haut de la cimbrée, ces fameux arbres auraient 600 ans.
Alors ce qui est très sympathique avec le mélèze, on le sait, puisque c'est donc un des rares résineux à épines, on va dire, à feuilles caduques. Donc c'est-à-dire qu'il est pair, hein, donc à l'automne, avec ce roux absolument incroyable. Donc il laisse aussi beaucoup de lumière, on voit cette lumière qui est tamisée. Donc ça laisse de la chance aux copains qui sont en dessous.
Exactement, donc on est dans une forêt qui a un couvert végétal richissime.
Oui.
C'est tout à fait pour ça qu'on parle d'un haut lieu de la botanique, parce qu'on y a découvert une centaine d'espèces végétales, voire même des espèces connues que dans ce petit coin de montagne ici.
Donc à l'inverse de l'épicéa et du sapin qui vous laissent quand même des forêts sombres et assez sinistres.
Hein. Complètement.
On va faire attention là.
Les racines du pin cimbreau sont pratiquement aussi grosses que l'arbre.
On va rappeler une évidence, ne venez pas avec des tongs, hein, ou en sandalette ici.
Des groseilles.
Bon, pas mûr encore.
Hein. Pas mûr. Non, là, en plus, cette année, on a eu beaucoup de neige. Il a fait relativement froid tardivement. Donc, la floraison a eu, à certains endroits, un mois de retard.
Je défie quiconque qui ne sait pas forcément ce qu'est la notion d'équilibre d'un point de vue écologique. Quand on vient ici, on le ressent.
Ah oui. Oui, c'est une balade d'équilibre, hein, à la fois sur un très beau chemin, ombragé parce qu'aujourd'hui on a un ciel magnifique, hein, le bleu brillant sonnet, très ensoleillé, avec on entend la rivière et de temps en temps il y a le tic-tic-tic du casse-noix. Si on n'avait plus de cimbreau, ben, il n'y aurait plus de casse-noix. Et si par malheur la pollution de cette zone arrivait, le casse-noix y passerait et il n'y aurait plus de cimbreau.
Et puis il y a cette lumière qui est à la fois, je ne vais pas dire éclatante parce que justement elle n'aveugle pas. C'est le gros avantage, c'est qu'elle est là, elle souligne, elle surligne les choses et puis elle est tamisée très très joliment. Donc là par les ramures à la fois de mélèze et aussi de pin cimbreau, ce qui fait qu'il y a plein de variations et on n'est jamais aveuglé par cette lumière.
Ouais. Oui, bah le mélèze réfléchit, on voit bien sur ces petites aiguilles de mélèze, ouais. on voit bien cette lumière réfléchie.
Vous imaginez un Van Gogh qui serait venu ici? Bon d'accord, il s'est arrêté à Saint-Rémy-de-Provence, à Arles, il n'a pas pu remonter jusque-là, il ne connaissait pas, mais alors, c'est incroyable.
Et c'est vrai que le Briançonnais, c'était une région tellement reculée jusqu'à l'arrivée du train en 1884 qu'on avait beaucoup de mal à y accéder, mais il y avait une vie très très riche ici.
Nous sommes dans un lieu d'extraction du charbon. Vers Villars-Saint-Pancras, il y a encore des restes de ce qu'on appelait donc les mines paysannes.
Alors à Villars, il y a eu des mines paysannes et une mine industrielle. Au Villars, la dernière année d'exploitation de la mine, c'est 1988. Ouais. Et il faut voir dans quelles conditions travaillaient les mineurs. J'ai malheureusement pu assister à l'enterrement d'un de mes anciens copains mineurs et sa femme racontait comment il rentrait l'hiver de la mine, les pantalons gelés et les chaussures gelées aussi. Ouais. Donc c'était des conditions de travail épouvantables. Pour certains, on travaillait à genoux, à la pioche. Il y avait une organisation qui était quand même assez forte à cette époque. Les jeunes et les anciens s'étaient organisés en coopérative. Ouais. Et vendait le charbon aux gens des villes. C'était une activité de l'hiver.
Oui, parce que donc on était dans la pluriactivité. Donc ces gens-là n'étaient pas forcément moniteurs de ski d'un côté et paysans de l'autre. Ils étaient agriculteurs et mineurs.
Agriculteurs et mineurs.
Là, on est en train de franchir, on va dire, un début de ruisseau. C'est même pas encore un ruisseau. Hein. Et l'eau sourd de partout.
Voilà. Alors on appelle ça les sagnes. Et justement,
donc là, c'est les tourbières.
Les tourbières. Hein. Et justement, c'est la richesse de cette cimbrée. C'est que dans ces tourbières, on va y trouver des insectes. Et les insectes sont la protéine du casse-noix moucheté. Ouais. Alors on va aller voir ce beau pin cimbreau. Ah. Et on va peut-être trouver l'objet du délit, c'est-à-dire
le
pique-nique du casse-noix.
Voilà.
Voilà ce qui est bien de faire dans cette cimbrée, c'est d'avoir laissé des souches. Là, on est face à une souche de cimbreau, très ancienne.
Vu le côté tortueux de la bête, torturé. Ça doit avoir 5 siècles. Hein.
Exactement, donc on a laissé des vieilles souches pour que le casse-noix puisse s'installer sur sa souche et casser sa graine.
Non, mais ça lui sert de table et d'enclume.
Exactement. Alors voilà ce que je cherchais.
Ça y est,
nous le trouvons.
Ouais.
Alors ce qu'on trouve, c'est une pigne de pin complètement déchiquetée, mangée par dont le casse-noix a sorti les petites graines.
D'accord.
Voilà. Alors soit pour les manger là, et il a dû commencer. D'ailleurs, on voit bien les restes. Hein, il a dû commencer déjà à disposer ces petites graines dans les trous sur son aire, qui est assez importante. Hein.
Thank you. l'odeur en plus. L'odeur de ces résineux.
Alors oui, surtout l'odeur du pain Saint-Bro. Oh, oui. C'est une odeur que le pain va conserver même en planche. Et ce pain, donc c'est un pain qu'on utilise pour la sculpture.
Travail,
c'est
oui,
un pain de travail. Et j'ai appris d'un ancien que les coffres à grains en Saint-Bro étaient fongicides. Ils protégeaient des insectes.
Bien, des champignons, bien sûr.
La forêt est très ouverte ici. Elle est à versant raide. Alors, ce qui est bien, finalement, dans cette forêt, c'est qu'elle est assez éloignée de Briançon. Et donc, elle est très peu
parcourue. Plus faut monter. Je tiens à dire tout de suite que ce n'est pas forcément goudronné. Donc, tant mieux. Ça limite quand même aussi le...
Non, mais le danger de nos pérégrinations hivernales en raquette ou en ski de rando, c'est quand même d'effrayer les animaux des forêts.
Bah, oui.
Donc, c'est quand même pas mal qu'il y ait des zones... pas vraiment des jungles, mais qui soient vraiment réservés aux animaux. Et ici, l'hiver, on va y rencontrer du chevreuil, quelques frênes, et le loup aussi, qui vit sa petite vie en passant l'école et en se faisant tout petit.
Alors de temps en temps, Jean-Luc, vous qui êtes aussi donc accompagnateur... dans des coins que vous affectionnez, c'est-à-dire le Zanskar, le Dolpo, vous faites des analogies, vous avez des rêveries communes, comme ça, entre le Briançonnais et ses coins d'Himalaya?
Complètement. Je pense que par moments, quand je suis en Briançonnais, avec ces lumières d'automne, j'invite vraiment les amoureux de la haute montagne à venir ici en octobre avec les mélèzes dorées. Eh bien, vous avez des lumières, ce sont les lumières du Zanskar, avec des ciels très, très purs, violets par moments. J'étais aux Écrins il y a quelques temps, de ça, entre deux orages. Et on a eu un lever de soleil dans un ciel mauve. J'ai vu ça seulement en Himalaya, au Zanskar. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que la physionomie du paysage, etc. Mais il y a aussi les gens. Il y a un certain attachement qu'on a ici en Briançonnais à sa forêt. Et les gens du Zanskar ont un attachement à leur terre ultra pauvre. D'une pauvreté, mais on réussit avec l'eau, la même manière qu'ici, avec l'irrigation, à faire venir du blé, un certain blé peut-être pauvre, mais de l'orge que faisaient venir les gens d'ici.
Voilà, je tenais à vous repasser cette balade avec Jean-Luc Charton, qui a écrit d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle « Briançonnais, les plus belles randonnées » aux éditions Glénat. Donc, merci à lui dans cette terre de lumière des Hautes-Alpes. Et puis, comme c'est la dernière de la saison, j'avais envie de vous offrir ce disque, parce que c'est vrai qu'on l'entend très rarement. Moi, je l'aime beaucoup. Vous la connaissez, c'est sûrement pas la plus connue de Brel.
Fils de bourgeois, fils d'apôtre, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César, fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Ce n'est qu'après, longtemps après, mes fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire. Sous voûte d'or, sous toit de chaume, tous les enfants ont un royaume. Un coin de vague, une fleur qui
tremble, un oiseau mort qui leur ressemble. Fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire. Ce n'est qu'après, longtemps après, mes fils de ton fils, mon fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Fils de l'amour, fils d'amourette, tous les enfants sont des poètes. Ils sont bergers, ils sont rois mages, ont des nuages pour mieux voler. Fils de ton fils ou fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Ce n'est qu'après, longtemps après, mes fils de bourgeois ou fils d'apôtres, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien.
Pour le plaisir, simplement, Brel, fils de. Cette émission est très naturaliste, vous l'avez bien compris. Toc, 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 je frappe à la porte et voici quoi ? Des tortues.
Aujourd'hui, les tortues marines sont toutes menacées d'extinction. Un cycle est-il en train de prendre fin ? Comment accepter cela ?
Alors, pour en savoir un petit peu plus, Rémi Thésier, vous êtes le réalisateur de cette émission qui va être rediffusée sur France 5 le 30 juin à 19h45, qui s'appelle « Sous le signe de la tortue ». Vous êtes à La Réunion. Bonjour Rémi.
Bonjour Denis.
Alors vous avez fait, je ne vais pas dire complètement un tour du monde, mais quand même, si vous avez rencontré ces tortues, dans quel océan ?
En fait, j'habite à l'île de La Réunion et je me suis intéressé aux pays qui sont autour de La Réunion. Alors pourquoi ces pays ? C'est parce que lorsqu'on est à La Réunion ou en Afrique du Sud, on est comme dans un pays riche. Et puis ensuite, lorsqu'on va à Madagascar, aux Comores, on se retrouve dans un pays pauvre. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir quelle était l'attitude de ceux qui protègent les tortues marines dans leur contexte, par rapport à leur vie quotidienne, que ce soit en Afrique du Sud, aux Comores ou à Madagascar.
Alors quels sont, d'un côté, les moyens que l'on a pour protéger ces tortues et quelles sont justement les menaces sur ces tortues ?
Alors, les moyens, c'est toujours pareil. Lorsqu'on se retrouve à Madagascar ou aux Comores, lorsque l'on vit au jour le jour, lorsqu'on a juste de quoi manger, c'est la problématique, c'est difficile de dire aux habitants, mais maintenant, vous allez protéger les tortues, alors que ces mêmes tortues leur donnent plus de 100 kilos de viande à manger. Donc, les personnes qui sont investies dans la protection des tortues marines, souvent sous forme d'associations, essayent de persuader les habitants que s'ils protègent, ils vont gagner plus que s'ils détruisent. Et donc, c'est sous la forme soit de l'écotourisme, je dirais, qu'on va arriver à protéger les tortues marines. Ensuite, je dirais que dans les pays riches, lorsqu'on est à La Réunion, c'est un département d'outre-mer, c'est donc la France, l'Europe. Là, c'est un contexte complètement différent. Les tortues marines ne sont pas décimées par les habitants, mais elles sont décimées par la pêche, que ce soit la pêche à la palangre, la pêche au filet, à la senne. Les tortues marines sont prises dans les filets et meurent asphyxiées parce que, bien sûr, les tortues marines sont des espèces qui vivent en apnée. Et si elles ne vont pas respirer en surface, elles vont mourir. Et là, on se retrouve donc avec des problématiques où la science va pouvoir aider à la protection. Et ici, à La Réunion, le Centre de découverte des tortues marines développe un système pour essayer de donner d'informations aux pêcheurs pour leur dire, voilà, si vous allez pêcher dans telles conditions et dans tel lieu, il y a des fortes chances que vous n'attrapez pas des tortues marines.
Donc, dans ce genre de cas, est-ce qu'il faut donner une valeur commerciale pour faire comprendre que cet animal va pouvoir nous aider ? Ou bien est-ce que c'est un piège aussi de lui donner une valeur commerciale ?
Alors, moi, je ne dirais pas une valeur commerciale. Je dirais, c'est plutôt de dire, regardez, si vous protégez, eh bien, vous allez pouvoir vivre différemment, autrement, et peut-être gagner autant d'argent que si vous la pêchez. Je veux dire, c'est un peu ça la démarche. Et ça repose essentiellement sur l'écotourisme. On a filmé un petit village sur l'île de Moéti, donc dans l'archipel des Comores, et ce village a décidé, envers et contre tout, de protéger ses tortues marines. Donc ils ont surveillé 3-4 plages qui jouxtent le village. Ils ont pas mal de problèmes avec les braconniers qui viennent encore braconner les espèces, mais ils arrivent quand même à faire venir les touristes, et pour le peu d'argent qu'ils gagnent, ils s'aperçoivent que c'est plus enrichissant pour eux d'avoir cette approche-là.
Alors les Français connaissent la cistude, c'est-à-dire une tortue d'eau douce que l'on trouve aussi dans une réserve incroyable qui est celle de la région de la Brenne, mais là on ne va pas parler de celle-là. Qu'est-ce que nous avons comme tortue ?
Alors nous, on s'est intéressé aux 4 espèces de tortues marines qui peuplent les océans. On va parler donc de la tortue verte, qui est le Niamizax, dont la viande est très prisée. C'est vrai, c'est une excellente viande, et de tout temps, les marins l'ont mangée. Ensuite, il y a la tortue crâne, qu'on appelle également grosse tête. La tortue imbriquée, qui a servi également à faire beaucoup d'objets précieux en écailles, que ce soit des lunettes, des pendentifs. Et enfin, on termine par la tortue lutte, qui est la plus imposante des tortues marines, qu'on est allé filmer en Afrique du Sud.
Et donc, à La Réunion, on joue le compromis, on travaille avec les pêcheurs, on regarde la taille des hameçons, par exemple ?
Alors, exactement. À La Réunion, on essaye de mettre en place des études scientifiques pour faire en sorte que les pêcheurs ne capturent pas, par erreur, des tortues marines. Et en fait, actuellement, la première disparition des tortues marines après le braconnage sur les plages lorsqu'elles viennent pondre, c'est bien sûr la pêche en mer avec les filets et les palangres.
Au-delà de l'intérêt professionnel que vous avez toujours eu, de toute façon pour la nature, Rémi Thésier, pourquoi vous intéressez aux tortues ?
Alors moi, c'est une espèce que j'ai découverte parce que j'ai tourné pas mal de films sous-marins, et c'est une espèce que j'ai découverte et dont j'ai été très très admiratif. C'est le plus vieux reptile du monde. C'est une espèce qui était déjà présente du temps des dinosaures. Elle a réussi à traverser les réchauffements et les changements climatiques de la planète. Et voilà qu'aujourd'hui, elle est en voie de disparition, non pas à cause des difficultés qu'elle peut rencontrer du fait de son archaïsme de reproduction, mais à cause de la pression humaine qui est trop importante pour elle, qui fait que si on ne fait rien, elle va disparaître. Et c'est ça qui m'a intéressé parce que c'est un animal qui représente bien les enjeux d'aujourd'hui pour montrer que si les actions de chaque individu, de chaque association qui feront changer les choses. Et la tortue marine est un bel exemple d'optimisme dans le domaine.
Sous le signe de la tortue, c'est sur France 5 le 30 juin, donc la semaine prochaine, à 19h45. Merci à Renan Mahé qui est aujourd'hui à la technique, à Marion Lelay, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza pour qui j'ai une pensée particulière en ce moment, à Valérie Yestaray qui a formidablement réalisé cette émission toute cette saison, à Muriel Pérez qui a choisi les disques et Anne Gouzon qui a nourri les sites de CO2. Mon amour, cet été, la semaine prochaine, eh bien, le samedi à 14h, c'est Paul Ajat qui vous tiendra compagnie avec des portraits d'écrivains. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir du 4 juillet en émission quotidienne à 14h. Pour une émission qui s'appelle « Qu'importe le chemin ». Alors, il faut imaginer des invités tels Yann Kefelec, Jacques Bonafé, Ariane Ascari, Jean Vautrin, qui vont se raconter en fait à travers des cartes routières, donc des itinéraires de vie qu'ils auront comme ça déposés sur la table et dans le micro de France Inter. L'Atelier Mon Petit Loup, ça continue toute l'année, donc à partir de demain, toujours, à 19h54 après les petits bateaux. Et puis, on se retrouve avec grand plaisir au mois de septembre. Que puis-je vous souhaiter ? Eh bien, de prendre soin de vous, des autres et un bel été dans la nature.